depuis des années et sont devenus assez récemment un phénomène de mode.
Croyez-moi, vous en êtes un.
J'en suis un ?
Oh oui, et un bon.
Le côté obscur, je perçois en toi.
Non, Bélix, pas toi, tu es tombé dedans quand tu étais petit.
Loading, avec Sonia et Elodie, sur Radio Campus 3.
C'est une fabrication artisanale. C'est fait à la main, c'est roulé à la main sous les aisselles.
Bonjour à tous et bienvenue dans une nouvelle émission de Loading. Comme chaque jeudi, 20h-21h, le samedi 13h-14h et sur campus3.fr. Bonjour Elodie.
Bonjour Sonia.
Comment va ?
Eh ben ça va bien.
Ça va bien. Qu'avons-nous au sommaire de cette émission ?
Un sommaire très riche. On va commencer avec l'actualité jeux vidéo. Ensuite, on enchaînera sur un jeu de pichenette.
Un jeu de pichenette.
D'accord. Que je vais tenter d'expliquer sans visuel à la radio. On verra si j'y arrive.
Pichenette avec les doigts ?
Ouais, c'est ça, d'accord. Pichenette. Ouais.
Ok.
Ensuite, donc, on enchaînera avec un forum RP suivi d'une bande dessinée et puis de l'actualité cinéma avec notre petite rubrique animé nostalgie.
Oui, où je reviens sur un dessin animé des années 80.
Et puis, on finira avec une série qui sent bon.
Une série qui sent bon. D'accord. Très bien. On commence donc par la première partie de l'émission. Dans l'actu jeux vidéo, la sortie le 15 janvier de My Time at Portia, disponible sur PC, un petit peu plus tard sur PS4, Xbox One et Switch. C'est développé par Patea Games et édité par Team 17 Digital. C'est un jeu RPG simulation sandbox. Démarrez votre nouvelle vie dans la merveilleuse ville de Portia. Remettez à neuf l'atelier délabré de votre père en remplissant des commandes, en cultivant des plantes, en élevant des animaux et en interagissant avec les drôles d'habitants. Récolter, miner, fabriquer des objets grâce aux vieux manuels et aux plans de travail de votre père pour devenir l'atelier le plus réputé de Portia, aider les habitants à rebâtir la ville et percer ses secrets. My Time at Portia, c'est disponible sur PC et un peu plus tard sur PS4, Xbox One et Switch. La sortie également le 15 janvier de Vein sur PS4 sera disponible un peu plus tard sur PC. C'est développé et édité par Friend and Foe Games. C'est un jeu d'aventure où vous incarnez un jeune garçon possédant un pouvoir étrange lors de son voyage sur les terres abandonnées d'une civilisation disparue. Traverser un territoire plein de dangers, balayé par les éléments pour découvrir les secrets du passé, plonger dans les profondeurs de ces grottes dangereuses, exploser ces vestiges désertés, et élevez-vous dans les cieux déchirés par l'orage pour trouver des indices expliquant votre rôle. Vein, c'est disponible sur PS4 et un peu plus tard sur PC. Et enfin, la sortie le 15 janvier de Blask sur PC, développé et édité par Small Big Square. C'est un jeu de réflexion où vous contrôlez l'environnement pour atteindre toutes les cibles avec des lasers. Chaque forme agit comme une pièce composée de miroirs. En combinant et en faisant tourner chaque forme, le joueur peut contrôler ou diriger le faisceau laser. Chaque casse-tête peut être résolu de multiples façons et il y a plus de 60 niveaux disponibles. Voilà, Blask, c'est disponible sur PC. Voilà pour l'actu jeu vidéo. On passe maintenant à la musique et puis ensuite tu nous parleras d'un jeu de pichenette.
Oui, c'est ça.
C'est comme ça que tu l'appelles ?
Bah oui, c'est un jeu de pichenette.
D'accord, très bien. On écoute Tahiti 80 avec A Love from Other Space et on se retrouve tout de suite après, toujours sur Radio Campus 3 et toujours dans l'émission Loading. Vous êtes bien dans l'émission Loading, le jeudi 20h-21h, le samedi 13h-14h et sur campus3.fr. Et donc Elodie, tu nous présentes ce jeu de pichenette qui est une grande première.
Oui, en fait c'est un Space Invader à la pichenette.
D'accord.
C'est un jeu qui s'appelle Flip Ship. En fait, vous êtes de courageux pilotes qui organisent la défense de leur planète en repoussant les vagues d'appareils ennemis et le vaisseau mère. Évidemment, il y a toujours un vaisseau mère et donc à tour de rôle, vous allez devoir propulser vos disques vaisseaux. Puisque voilà, les vaisseaux sont sous forme de petits palets en carton. Vous avez la rampe de lancement qui est un petit cube en bois. Enfin, un cube en bois. On place donc le petit disque sur le cube en bois et puis on fait une pichenette pour pouvoir lui faire faire un flip parce qu'il faut que la pastille tourne. C'est le nom du jeu, hein, comme ça. Et aller toucher en fait un des vaisseaux qui est en train de descendre puisqu'en fait sur la En face de vous, vous allez avoir, comme dans un Space Invader, où on a des petits vaisseaux qui descendent au fur et à mesure. Là, c'est la même chose, mais sous forme de carte. Okay. Et donc, il va falloir envoyer vos vaisseaux pour toucher votre vaisseau pour toucher le plus de vaisseaux ennemis possible. Sachant que suivant quelle couleur de vaisseau vous êtes, vous allez avoir des pouvoirs qui vont d'ailleurs changer. Plutôt des capacités qui vont changer de tour en tour. Où vous allez par exemple avoir une carte. Pour pouvoir tirer sur les vaisseaux qui sont autour de vous. Donc comme ça, vous allez étoucher les vaisseaux sur lesquels vous êtes tombé. Mais en plus, grâce à la petite carte de tir, vous allez pouvoir voir quel autre vaisseau vous allez pouvoir toucher. C'est un exemple. Il y a aussi, je crois qu'il y a un pouvoir où si vous arrivez à... Parce que le but aussi, c'est de tuer le vaisseau mère. Mm-hmm. Le vaisseau mère, lui, en fait, c'est une sorte de boîte. Alors qu'il ressemble à un vaisseau. Mais en gros, il va falloir envoyer votre vaisseau dans la boîte. Qui, évidemment, éloignée.
Elle est loin et petite, je suis sûre.
Non, elle est plutôt... Non, ça, non, va. Ça va. Elle est de taille tout à fait correcte. Mais effectivement, elle est un peu loin. Donc, et c'est là où on se rend compte que la pichenette, c'est pas si simple. Vraiment, de donner la bonne dose, de viser au bon endroit. Des fois, le vaisseau, il tombe, comme une tartine de beurre sur le sol. Dans ce cas-là, vous avez le droit d'ailleurs de renvoyer votre vaisseau, puisque s'il n'a pas fait de flip et s'il est tombé dans la zone de décollage, vous pouvez réessayer de décoller pour aller battre un vaisseau ennemi. Et donc le but, c'est de sauver la Terre.
Voilà. Tout simplement.
Donc c'est vraiment pas simple. Pour le moment, j'y ai joué qu'une fois, on n'a pas réussi à sauver la planète. Je suis désolée, on est tous morts.
D'accord.
Et ça change un peu des jeux de plateau, des jeux de cartes traditionnels. Voilà, c'est un peu différent. On a un peu mal aux doigts à la fin de la partie. Parce qu'on a tendance à mettre un peu de force, puis des fois, sans faire exprès, taper dans le cube de lancement en bois. Et puis trouver la bonne façon. Quel doigt j'utilise pour faire la pichenette ? Est-ce que j'utilise le pouce ? Est-ce que j'utilise l'index ? C'est pas tout ça. Il faut trouver sa technique de pichenette.
D'accord.
Voilà. Toi, t'as envie d'essayer mon jeu de pichenette.
C'est marrant, oui.
Ça tombe bien, je l'ai à la maison. Donc, ça s'appelle Flipship. Ça se joue de 2 à 4 joueurs. C'est à partir de 8 ans. C'est quand même pas très compliqué non plus. Enfin, c'est pas si simple de faire un petit flip à son vaisseau. Et ça dure environ une demi-heure, la partie. Voilà.
Ok. Très bien. Ça dure quand même une demi-heure.
Oui, parce qu'on joue à tour de rôle. Et puis, une fois qu'on a fini un premier tour, il y a les nouveaux vaisseaux qui arrivent puis qui descendent, comme dans un Space Invader.
D'accord.
Donc oui, c'est... Enfin, ça dépend. Si vous êtes très mauvais, ça peut être très court.
Ok.
Tout dépend.
Très bien. On écoute à nouveau de la musique et ensuite, je vous parlerai d'un forum Roleplay City. Ça fait longtemps que je veux parler des forums City.
Ça n'avait pas manqué, tu sais.
Celui-là est pas mal. On écoute Soggy Bottom Boys avec Dan Timinski. I am a man of content sorrow. Et cet extrait de la bande originale du film Oh Brother. Et on se retrouve tout de suite après, toujours sur Radio Campus 3 et toujours dans l'émission Loading. Vous êtes toujours dans l'émission Loading le jeudi 20h-21h, le samedi 13h-14h et sur campus3.fr. Et donc on passe maintenant au forum Roleplay à l'honneur cette semaine. Et donc c'est un forum Roleplay City. Alors qu'est-ce qu'un forum Roleplay City ? C'est un forum où vous êtes dans une ville inventée ou non et vous jouez un humain sans pouvoir, sans rien, juste un humain, et vous êtes très libre dans cette ville, vous faites ce que vous voulez, voilà, en gros. Donc Elodie, tu n'aimes pas trop ça, je sais. Mais bon, il y en a quelques-uns qui se démarquent un petit peu, alors notamment celui-là, Walk on Ice, ça se passe en Islande, et donc vous êtes un humain en Islande. Alors c'est un forum qui date du 21 avril 2018, il a déjà quelques mois d'existence. Au niveau des graphismes, on est plutôt du côté sombre, avec des tons noirs et violets. C'est rare d'avoir des forums plutôt violets, et là pour le coup, voilà. Et vous avez un guide, alors non pas un guide du débutant, là il s'appelle le guide d'intégration. Voilà. au niveau des groupes, tous les groupes portent le nom d'un volcan islandais. Donc vous avez le groupe des éclat. Donc, c'est les gens qui sont imprévisibles, qui profitent de la vie, qui vivent au jour le jour, qui font la fête, qui font ce qu'ils veulent, en gros. Voilà. Vous avez également le groupe des surtlas. Donc, c'est les gens qui vivent tranquillement, hein, qui se complaisent dans leur quotidien, mais qui savent ce qu'ils veulent. Vous avez le groupe des eldfels. C'est donc des gens qui sont plutôt gentils, qui ont le cœur sur la main, qui aident les autres, qui sont généreux. Vous avez le groupe des jolnir. Donc, ce sont des artistes, des rêveurs, des esprits libres. Ils sont vraiment dans leur monde imaginaire. Et puis, vous avez le groupe des katlas. Donc, c'est tous les autres, en gros. Les méchants, peut-être, ici. Parce que c'est vrai qu'il y a beaucoup de groupes gentils, pour le coup. Voilà, donc vous allez pouvoir jouer un humain en Islande, tout simplement. Alors, il y a quelques annexes. Il y a la vie en Islande, comment ça se passe en Islande. Il y a le peuple caché, donc les légendes islandaises. Et justement, là où le forum est un petit peu original, je dirais, c'est qu'on fait intervenir des légendes islandaises dans les roleplays. Ah. C'est-à-dire les gnomes, les elfes, voilà. Il peut y avoir un petit truc comme ça qui apparaît. Voilà, de temps en temps, si on veut. vous avez également en annexe les prénoms et noms de familles islandaises. Et donc là, c'est assez détaillé comment on peut choisir son nom pour le forum. Parce que bon, c'est vrai qu'on choisit un personnage, mais il faut lui donner un nom. Et donc là, il vous aide à trouver un nom de famille qui soit islandais. Donc avec des O, avec deux points dessus.
Voilà. Ça fait penser à... Ah non, c'était des goths. Une BD d'Astérix comme ça où il y avait des noms avec
oui,
des...
tout à fait.
Bizarres partout.
Vous avez une annexe sur le climat, comment on vit en Islande au niveau du climat.
Également, froid, non
oui. Également un système de points en participant à la vie du forum. Et puis des events qui sont aussi mis en place par le maître du jeu. Voilà, il y a plusieurs events, notamment au moment de Noël ou d'Halloween. Voilà. Et bien sûr, vous pouvez lire les roleplays qui sont déjà en place. Donc, c'est un forum qui date du 21 avril 2018. Il y a 35 membres enregistrés. Il faut environ une quinzaine de lignes minimum. Voilà. Pour aller sur ce forum, vous tapez walk-on-ice.forumactif.com.
C'est beaucoup trop compliqué tout ça.
Mais comment on fait, Elodie ?
Eh bien, nous avons un blog, oui. loadingradio.wordpress.com, sur lequel il y a un petit descriptif de ce fameux forum RP et le petit lien sur lequel on peut cliquer pour y accéder directement.
Voilà, donc forum city, libre, très bien pour les débutants, je dirais, ce genre de forum, si vous voulez vous tenter, et puis être assez libre au niveau roleplay, voilà, pourquoi pas. Bien sûr, c'est un forum d'écriture, hein, donc il faut aimer lire et écrire, comme je dis à chaque fois.
Il faut être pas trop mauvais en orthographe, il faut avoir des outils pour pas être
oui,
trop mauvais.
Oui, maintenant, sur Internet, on peut trouver beaucoup d'outils.
Oui, ça corrige quand même beaucoup de
corrections.
Hein.
Tout à fait. On écoute un petit morceau et ensuite on parlera d'une BD.
Oui, d'une bande dessinée qui m'a été prêtée par Cyril. Je le dis parce qu'il m'a dit de le remercier. Donc je le remercie. Qui est une chouette BD qu'il pourra te prêter si tu veux. Si tu veux la lire. Donc voilà, on en parle suite après. D'ailleurs, j'ai appris que c'est une bande dessinée qui était nommée à Angoulême, si je ne dis pas de bêtises.
Cette année ?
Oui.
D'accord. Ok. On écoute Glenn Hansard avec le titre Once et on se retrouve tout de suite après, toujours sur Radio Campus 3 et toujours... Non, c'est le titre Live, pardon.
Oui, c'est la BO du
la
film,
BO du film
Once.
Once. Et on se retrouve donc après, toujours dans l'émission Loading sur Radio Campus 3. Vous êtes toujours dans l'émission Loading, le jeudi 20h, 21h, le samedi 13h, 14h et sur campus3.fr. Et donc, tu nous parles d'une BD.
Oui, qui s'appelle « Il faut flinguer Ramirez » de Nicolas Petrimo, acte 1. Donc, ça veut dire qu'on aura certainement un acte 2.
D'accord.
Et si derrière la légende du pire assassin mexicain se cachait le meilleur expert en aspirateur que le monde ait jamais connu ? Jacques Ramirez est un quadragénaire muet travaillant pour une célèbre marque d'électroménager et suite à une rencontre inattendue, il devient la cible d'un dangereux cartel mexicain bien décidé à lui faire la peau. Et voilà le pitch de cette BD et c'est assez dingue. Alors en fait, j'ai dans ma famille quelqu'un qui l'a offert à quelqu'un d'autre parce qu'en fait il y a un aspirateur sur la couverture et que cet aspirateur j'ai le même dans une maison familiale, sauf qu'il est bleu, il n'est pas orange. Du coup, c'était pour ça. Mais en fait, c'est extrêmement bien. Alors déjà, rien que la mise en page et les couleurs, ça fait très, très film, en fait, très cinéma déjà. Ouais. Et ce qui est normal, puisque l'auteur a fait pas mal de vidéos. Enfin, en tout cas, c'est quelqu'un de très créatif au niveau image. Et rien que la couverture, d'ailleurs, ça fait très Tarantino.
Oui, c'est ce que je pense, ça aussi.
Et ben, l'histoire fait très Tarantino. Je trouve D'accord. qu'il y a... Alors, c'est pas du tout Pulp Fiction, hein, mais ça pourrait se rapprocher d'un genre Pulp Fiction. Et c'est une histoire dingue, puisqu'effectivement, il y a ce mec-là qui est muet, qui, effectivement, apparemment, est un expert en aspirateur. Il va même peut-être être nommé employé du mois. Et par hasard, donc, effectivement, des mecs le reconnaissent et pensent que c'est un tueur à gages qu'on n'a pas vu depuis longtemps, qui s'est rangé. Alors, on ne sait pas si c'est vraiment un tueur à gages ou pas. Le mystère plane et du coup, on va suivre justement qu'est-ce qui va lui arriver, est-ce qu'ils vont réussir à le choper, est-ce que... Voilà. Et c'est très prenant, c'est aussi bien rythmé qu'un film. Ça pourrait d'ailleurs être un film. Alors, j'ai pas regardé, parce que je viens de voir ça juste derrière la couverture, qu'il y a une bande-annonce, parce que maintenant, ils font beaucoup de bandes-annonces pour les bandes dessinées, oui, quand elles sortent. Et alors, ce qui est rigolo aussi, c'est que quand on ouvre, vous avez le mode d'emploi de l'aspirateur. Et ce qui est très intéressant aussi, c'est que parfois, vous avez dedans des pubs, ou des articles de journaux, et je vous conseille de lire parce que c'est très très drôle. Enfin, les textes, c'est du vrai texte qui est écrit, ou des fois c'est marqué bon, alors on écrit ce texte-là pour combler les trous et pour essayer de trouver quelque chose d'intelligent à dire, et voilà, c'est plein de petites choses comme ça qui sont rigolotes. Donc vous avez toujours le mode d'emploi de l'aspirateur, puis il y a même aussi un formulaire si l'aspirateur vous a plu. Bref, il y a beaucoup de choses très rigolotes. Et le dessin est très chouette, mais voilà, vraiment, ça fait très, très film. Ou très, même un film qu'on aurait remis en bande dessinée comme une espèce d'adaptation. C'est une vraie réussite et je comprends qu'il soit nommé à Angoulême. J'espère qu'il aura un prix. Je ne sais pas dans quelle catégorie il est nommé. Mais en tout cas, on n'a qu'une envie quand on l'a fini, c'est de lire la suite. Ouais. Voilà. D'accord. Donc je vous le conseille vivement.
C'est une histoire qui a quand même une fin ou on attend quand même une suite ?
Ben, je ne sais plus comment ça se finit. Non, on attend une suite quand même parce que... Attends, je regarde la dernière page. Non, on attend une suite. Oui. Il n'y a pas vraiment de fin. Disons qu'il y a un acte qui se finit, mais on a envie de savoir ce qui va se passer. Et puis, qui il est vraiment, ce fameux Ramirez qui est muet. Donc, voilà.
D'accord. Et pourquoi il faut le flinguer ?
Oui, pourquoi ? Alors, je pense qu'il a fait un truc pas cool. Si, on sait pourquoi, d'ailleurs.
D'accord.
On sait pourquoi. Voilà, donc c'est très très bien, ça s'appelle Il faut flinguer Ramirez, c'est donc de Nicolas Petrimo, que je vous conseille vivement.
Très bien, merci Elodie. On repasse à la musique et puis ensuite on parlera cinéma, avec les sorties ciné à 3, pas mal de choses à l'affiche cette semaine, avec également l'actu tournage des films qu'on attend ou pas, genre un reboot qu'on n'attend pas franchement. Et puis ensuite, ce sera la petite rubrique animé nostalgie, où comme d'habitude, je fais un petit blind test. Faudra bien écouter les paroles. Voilà, c'est pas forcément un dessin animé hyper connu. Hein. Et puis ensuite, on finira par une série qui sent bon.
Oui,
ce que tu as dit. Hein.
Mais oui, c'est ça, vu le titre.
D'accord. On écoute Guy Drey avec Le Roi des Animaux et on se retrouve tout de suite après, toujours sur Radio Campus 3 et toujours dans l'émission Loading. Vous êtes toujours dans l'émission Loading le jeudi en direct 20h-21h, en rediffusion le samedi 13h-14h et sur campus3.fr. Et donc maintenant on va passer au cinéma avec les sorties ciné à 3. Avec le film tout d'abord Ben is Back, réalisé par Peter Hage avec Julia Roberts et Lucas Hedges. La veille de Noël, Ben, 19 ans, revient dans sa famille après plusieurs mois d'absence. Sa mère, Holly, l'accueille à bras ouverts, tout en redoutant qu'il ne cède une fois de plus à ses addictions. Commence alors une nuit qui va mettre à rude épreuve l'amour inconditionnel de cette mère, prête à tout pour protéger son fils. Ben is back, c'est à voir actuellement au CGR A3. Autre film qui sort cette semaine, Double Vie, réalisé par Olivier Assayas avec Guillaume Canet et Juliette Binoche. Alain, la quarantaine, dirige une célèbre maison d'édition où son ami Léonard, écrivain bohème, publie ses romans. La femme d'Alain, Selena, est la star d'une série de télé populaire et Valérie, compagne de Léonard, assiste vaillamment à un homme politique. Bien qu'ils soient amis de longue date, Alain s'apprête à refuser le nouveau manuscrit de Léonard. Les relations entre les deux couples, plus entrelacées qu'il n'y paraît, vont se compliquer. Double Vie, c'est à voir actuellement au CGRA 3. La sortie du film Glass, réalisé par Night Shyamalan avec James McAvoy et Bruce Willis, attention, c'est interdit aux moins de 12 ans. Peu de temps après les événements relatés dans Split, David Dunne, l'homme incassable, poursuit sa traque de la bête, surnom donné à Kevin Crumb depuis qu'on le sait capable d'endosser 23 personnalités différentes. De son côté, le mystérieux homme souffrant du syndrome des os de verre, Elijah Price, suscite à nouveau l'intérêt des forces de l'ordre en affirmant détenir des informations capitales sur les deux hommes. Glass, c'est à voir actuellement au CGRA 3, et donc c'est la suite d'Incassable et avec un peu de Split dedans. Autre sortie cette semaine, l'incroyable histoire du facteur cheval, réalisée par Nils Tavernier avec Jacques Gamblin, Laetitia Casta et Bernard Lecoq. Fin 19e, Joseph Ferdinand Cheval est un simple facteur qui parcourt chaque jour la Drôme, de village en village. Solitaire, il est bouleversé quand il rencontre la femme de sa vie, Philomène. De leur union naît Alice. Pour cet enfant qu'il aime plus que tout, Cheval se jette alors dans un pari fou, lui construire de ses propres mains un incroyable palais. Jamais épargné par les épreuves de la vie, cet homme ordinaire n'abandonnera pas et consacrera 33 ans à bâtir une œuvre extraordinaire, le Palais Idéal. L'incroyable histoire du facteur cheval, c'est à voir actuellement au CGRA 3. Autre sortie cette semaine, une jeunesse dorée, réalisée par Eva Ionesco, avec Isabelle Huppert et Melville Poupeau. Paris 1979, au cœur des années Palace, au lieu de la nuit où se retrouvent artistes, créatures et personnalités guidées par une envie de liberté, Rose, une jeune fille de 16 ans, issue de la DAS, et son fiancé Michel, 22 ans, jeune peintre désargenté, vivent leur première grande et innocente histoire d'amour. De fait en fait, ils vivent au jour le jour, au gré des rencontres improbables de la nuit. Lors d'une soirée, Rose et Michel font la connaissance de Lucille et Hubert, de riches oisifs qui vont les prendre sous leur aile et bousculer leur existence. Une jeunesse dorée, c'est à voir actuellement au CGR à 3. Et puis, plusieurs films en sortie décalée. Tout d'abord, le film Leto, réalisé par Kirill Serebrennikov, avec Roman Bilic et Théo Yo. Donc, un film qui était sorti début décembre, qui sort actuellement au CGR.
Oui, parce que c'est le festival Télérama.
Tout à fait.
Oui, c'est pour ça.
Voilà. Également Amanda, réalisé par Michael Hirst avec Vincent Lacoste, Isor Multrier, donc qui était sorti en novembre. La grande aventure de Non-Non, un film d'animation, ça change de oui, réalisé par Mathieu Auvray. Le film Nos batailles, réalisé par Guillaume Sénèze avec Romain Duris et Laure Calamy. Et puis le film Phantom Thread, réalisé par Paul Thomas Anderson avec Daniel Day-Lewis et Vicky Krieps. Voilà, donc tout ça c'est à voir au CGR pendant le festival Télérama. Et puis il y a un marathon qui va bientôt commencer, ça sera le samedi 19 janvier.
Un sacré marathon.
Le marathon Seigneur des Anneaux. Et oui, vous allez pouvoir voir les trois films de la trilogie, voilà, en salle Premium Ice. Voilà. Donc le déroulé à 10h le matin, vous avez le premier, La Communauté de l'Anneau. Ensuite, à 15h, les deux tours. Et pour finir, à 19h45, le retour du roi. Voilà, toute une journée, Seigneur des Anneaux.
Ah, ils font pas le Hobbit, en fait, avant.
Non, ils font...
Oui, c'est vraiment que Seigneur,
que
des,
Seigneur
Anneaux.
Des Anneaux, là. Oui, toute une journée.
Ah,
Seigneur
je crois que
Anneaux.
C'était tout un week-end où t'avais... Ok, j'avais mal compris.
Voilà, donc ça sera le samedi 19 janvier au CGR. Donc pour plus d'infos, rendez-vous sur le site du CGR à 3. Et puis, vous avez de l'opéra. Ce sera mardi 22 janvier, La Dame de Pique, à 19h45, au CGR. Également de l'animation avec My Hero Academia Two Heroes, réalisé par Kenji Nagasaki. Mardi 22 janvier, ce sera la première, donc à 19h30. Ensuite, il y aura mercredi à 18h. Et il y aura d'autres séances ensuite. Et puis, du côté des avant-premières, vous avez le film d'animation Minuscule 2. Les mandibules du bout du monde. Oui, le premier était très bien. C'est réalisé par Thomas Zabot et Hélène Giraud. Ce sera dimanche 20 janvier à 11h, l'avant-première donc de Minuscule 2. Les mandibules du bout du monde.
Avant que tu passes à l'actu tournage, je peux faire aussi un petit point actu local, parce que j'avais complètement oublié. Alors si vous écoutez samedi, c'est trop tard, mais ce vendredi 18 janvier, donc demain soir si vous nous écoutez maintenant, il y a la troisième nuit de la lecture à la médiathèque, mais il n'y aura pas que de la lecture. Vous pourrez jouer à des jeux de société, il y a des jeux vidéo, il y a des échecs, du jeu de rôle, un marathon de lecture qui est organisé, de la dictée, si vous voulez faire de la dictée. Bref, il y aura plusieurs salles, différentes ambiances. Donc c'est de 14h à 22h pour les étudiants et de 17h à 22h pour tout le monde. Et puis le samedi 19 janvier, vous avez une dédicace au Bidibule de Quentin Zution et Shail Zaleski de 14h à 19h. Je ne connais pas leur BD, ça a l'air très bien et c'est sur la thématique de la construction du genre et du corps. Donc aussi bien des personnes qui sont nées femmes et deviennent hommes ou inversement, mais également sur le corps en général, des petits, des gros, des voilà. Donc c'est leurs bandes dessinées sont sur ces thématiques-là. Donc si ça vous intéresse de découvrir parce que vous ne les connaissez pas, n'hésitez pas à aller discuter avec eux à la dédicace au Bidibule et puis de prendre leur bande dessinée. Si vous connaissez, bah voilà, ils sont là à 3.
Ok.
Faut pas les manquer.
Très bien. Du coup, on passe à l'actu tournage. Alors, eh oui, il y a un reboot qui est en préparation, le reboot de Destination Finale.
J'en ai entendu parler. Il y en a eu un paquet de Destination Finale.
Oui. La franchise donc Destination Finale est sur le point de revenir. Après 5 épisodes, dont le dernier remonte au début des années 2010, la mort reviendra frapper avec ingéniosité très prochainement. New Line serait en train de préparer un reboot pour relancer une dynamique et pourquoi pas en faire une petite poignée par la suite, comme au bon vieux temps.
Bonjour, on n'a pas d'idée. Si on ressortait un truc qu'on connaît bien.
Donc, si vous avez connu le cinéma d'horreur dans les années 2000, la saga Destination Finale ne peut pas vous être inconnue. Le concept était aussi malin que jouissif, même si les suites ne sont pas toutes d'un niveau recommandable, on va dire. Le point de départ de chaque épisode est un personnage principal, pris d'une soudaine vision dans laquelle il assiste à un terrible accident impliquant lui et ses proches. Il tentera par la suite de les sauver, ou du moins de les prévenir, mais la mort est un adversaire redoutable. Et tout le fun de ces films réside dans les morts, souvent graphiques, inventives. On pourrait en citer quelques-unes, mémorables, comme, je dirais, le bus dans le premier, la cabine duvet dans le second volet, le terrible accident routier dans le deuxième volet aussi.
Qui fait l'ouverture.
Ouais,
c'était assez impressionnant.
Puis, on peut les oublier, les autres. Une petite scène de manège dans le 3.
Le premier était vachement bien, et c'est un peu comme Saw. Premier était vachement bien, puis après, c'est qu'est-ce qu'on peut faire comme mort atroce.
Le 2 est pas mal, Destination Finale.
Oui.
Mais après, non.
Après, ils cherchent des façons de mourir inventives. Voilà, c'est ça. Mais c'est dommage, le scénario est une bonne idée. Et ça fait dire que c'est pas vraiment un film d'horreur, en fait.
Non, c'est...
Oui. Enfin, il y a un peu d'angoisse quand même dedans.
Un peu de comique quand même.
Oui,
les morts sont drôles.
Enfin, des trucs quand même où tu fais oui, mon Dieu, comment c'est possible?
Donc on en a vu de toutes les couleurs en 5 films, et pourtant il faudra trouver de nouvelles idées pour ce 6e film. Des spécialistes de la mort ont été convoqués pour l'occasion. Patrick Melton et Marcus Dunstan, le duo, a écrit les 4 derniers Saw, autre franchise basée sur des mises à mort hors du commun.
C'est donc ça, les spécialistes de la mort. Je faisais le parallèle, c'est la même chose.
Donc on sait pas trop de quoi va parler le scénario, les ingrédients devront être là et similaires à ceux qui définissent l'ADN de Destination Finale. Le projet est moins vendu comme une réinvention, ce qui implique un renouvellement dans la façon de faire. En tout cas, aucune date de sortie n'est encore connue, donc affaire à suivre pour ce 6e Destination Finale. Et puis, du côté de Uncharted, au cinéma, j'en avais déjà parlé, il y a un petit peu du nouveau, surtout un nouveau réalisateur aux manettes. À la suite d'innombrables rebondissements, le film Uncharted pourrait enfin se faire avec un nouveau réalisateur aux commandes. Pendant un temps, ce fut David O. Russell qui devait être s'en charger, puis après ça a été Joe Carnahan, et puis et c'est maintenant Sean Levy qui en héritera. Alors ce dernier n'a finalement pas fait long feu. C'était le dernier qui n'a pas fait long feu. Et donc celui-là a préféré se concentrer sur Free Guy, hein, porté par Ryan Reynolds, l'histoire d'un personnage de jeu vidéo qui se rend compte de ce qu'il est et tente de s'affranchir de sa condition. Donc Levy a probablement senti que le projet patinait et donc il s'est dirigé vers un autre jeu. Tout simplement. Donc c'est désormais Dan Trachtenberg qui a été choisi par Sony et Columbia pour diriger Uncharted. Un choix plus que plaisant lorsqu'on sait de quoi il était capable avec 10 Cloverfield Lane, son thriller de SF en huis clos particulièrement tendu, qui avait fait très bonne impression lors de sa sortie. Donc Trachtenberg se lance un autre défi en acceptant Uncharted. Le matériau de base repose sur le grand spectacle, hein, sur des cascades virevoltantes et des gunfight énervé. Alors pour ceux qui ne connaissent pas la série de jeux Uncharted, donc ça suit les aventures de Nathan Drake, une sorte d'Indiana Jones si on peut dire, lors de ses recherches pour trouver de nombreux trésors ou des cités connues. Les joueurs ont par exemple pu l'accompagner pour trouver l'Eldorado. Voilà. Toutes ces aventures ne sont pas de tout repos et Nathan doit à la fois lutter contre des adversaires et comprendre le passé de sa famille. Néanmoins, le film ne devrait pas adapter une des trames d'un des jeux, mais il devrait se concentrer sur l'avant, donc avec un héros plus jeune. Aux dernières nouvelles, c'est Tom Holland qui devait incarner Nathan et l'histoire suivra le personnage à ses débuts. Le tournage pourrait en tout cas avoir lieu comme prévu avant la fin de l'année. Mais pour l'instant, aucune date de sortie n'a encore été annoncée. Donc Uncharted, affaire à suivre. Et donc, on en arrive à notre petite rubrique animé nostalgie, où je vais vous parler d'un dessin animé des années 80, et je vais vous le spoiler, bien comme il faut. Donc si vous ne voulez pas savoir la fin, eh bien, bouchez-vous les oreilles pendant 5 bonnes minutes. Et comme d'habitude, je vous fais un petit blind test, et je fais un blind test également à Elodie, pour savoir si elle se souvient de ce dessin animé qui faisait comme ça.
Ça ira, ça ira.
Je connais pas ça.
Dans la nuit, un cheval noir emporte un beau gentilhomme masqué.
Et on reconnaît Claude Lombard.
Près de lui, un cheval blanc emporte une jeune fille révoltée. Un monde qu'ils espèrent tout beau. Les deux ils font la révolution. Pour les deux.
Écoute bien, tu as la solution dans les paroles.
Tulipe noire.
Oui. La tulipe noire, oui,
c'est
pas,
du pas
forcément un dessin animé très connu, mais je pense que quand vous allez voir, j'ai mis une image hein, sur notre blog, peut-être que ça va vous dire peut-être quelque chose.
Le dessin, oui, par contre, ils ont fait d'autres dessins animés, ceux qui ont fait ça.
Oui, ceux qui ont fait ça, ils ont fait
Cité d'or, non ?
Les mystérieuses Cités d'or, tout à fait. Il y avait également Belle et Sébastien et Pôle Position. Voilà. Donc, La Tulipe Noire.
J'ai jamais vu ce truc-là.
La Tulipe Noire, c'est une série télé donc japonaise en 39 épisodes de 22 minutes. Et j'ai tout regardé.
Voilà. Ça a eu l'air de te ravir.
Alors, ça va, moi je trouve que ça va. Bon, même si l'animation, j'ai trouvé pour le coup, comme je dis toujours, c'est vrai que les animations japonaises des années 80 ont plutôt pas trop mal vieilli par rapport aux autres. Là, il y a quand même quelques longueurs parfois. Alors, de quoi parle ce dessin animé ? Eh bien, ça se passe à la fin du XVIIIe siècle. Un vent de révolte souffle sur Paris. Accablé par les impôts, le peuple est sous le joug d'une monarchie en fin de vie. Après sa rencontre avec le comte de Vaudreuil, la jeune Mathilde Pasquier va voir sa vie transformée. La vendeuse de fleurs devient la nuit une justicière derrière le masque d'épée de la liberté.
Je dirais elle vend des brioches.
Mais voilà.
Pasquier. Non. Pardon.
Elle défend la veuve et l'opprimé avec la tulipe noire qui n'est autre que François de Vaudreuil. Parmi leurs ennemis, le lieutenant Gaspard et ses troupes de soldats, entre autres. Voilà, donc ça se passe à Paris et Versailles, puisqu'on est presque en 1789, juste un peu avant. Et on va voir, bien sûr, pendant la Révolution française. Alors, ce qui est marrant, c'est qu'on peut faire aussi comparer un peu la tulipe noire et Lady Oscar. Sauf que Lady Oscar était plutôt du côté de la noblesse et défendait la noblesse. Et là, la tulipe noire, c'est plutôt pour défendre les opprimés et le peuple. Quoique... Ben oui, puisqu'il va y avoir pas mal de secrets dans ce dessin animé. Notamment Mathilde, qui n'est pas vraiment fille de fleuriste. Et non, elle a été adoptée. Et on apprendra... du moins, le spectateur va déjà, dans un premier temps, apprendre que Mathilde est un enfant plutôt noble, puisque c'est la demi-sœur de Marie-Antoinette.
Oh !
Rien que ça. Donc, le père de Marie-Antoinette a fauté avec une cantatrice... Et ne pouvait pas garder le bébé, donc qui a été confié et qui a été aussi confié au de Vaudreuil. Alors, c'est ce qui est marrant, c'est que dans ce dessin animé-là, elle pourrait avoir des histoires d'amour, cette jeune fille, et il y en a pas du tout. Ce qui est assez étonnant en général, même si des fois on se dit avec François ou alors avec Florent, l'un ou l'autre, voilà. Bref, donc c'est un dessin animé qui a quand même été inspiré non pas d'un livre ou quoi que ce soit, ça a été inspiré librement du succès sur grand écran du film La Tulipe Noire de Christian Jacques, qui avait pour vedette Alain Delon, qui à l'époque était une superstar au Japon. Voilà.
Oui, c'est vrai.
Oui. Et donc voilà, ça a été vraiment clairement meilleur, très librement inspiré du film, pas du tout pareil. Voilà, donc La Tulipe Noire, donc ça va retracer toute cette époque de la Révolution. Et puis vers les derniers épisodes, Mathilde va apprendre, et Marie-Antoinette va aussi l'apprendre en même temps, qu'elles sont demi-sœurs, et donc elles vont un peu se tomber dans les bras, et donc du coup Mathilde va un petit peu aussi l'aider, mais trop tard, puisqu'on sait très bien ce qu'est devenu Marie-Antoinette et Louis XVI. Ils ont été emprisonnés avec leurs enfants, et ils ont été guillotinés, bien sûr, vous ne le savez pas encore. Voilà.
Mais, spoiler.
Voilà. Alors, pour le dernier épisode, alors qu'est-ce qui se passe ? Alors, Marie-Antoinette va demander à Mathilde si elle peut libérer ses enfants et s'en occuper comme d'une mère. Mathilde va accepter. Et avec François, alors François c'est la tulipe noire et Mathilde c'est l'épée de la liberté. J'ai jamais compris pourquoi ils ont donné le titre La Tulipe Noire au dessin animé également, sachant que finalement c'est pas le personnage principal La Tulipe Noire, c'est plutôt l'épée de la liberté. Bon.
Non, je pensais que c'était elle du coup La Tulipe Noire.
Non, La Tulipe Noire c'est François, voilà. Et elle c'est l'épée de la liberté. Bon, bref. Donc le dernier épisode, Mathilde et François vont sauver les deux enfants de Marie-Antoinette qui sont Louis-Charles et Marie-Thérèse. D'ailleurs Louis-Charles c'est doublé par Brigitte Lecordier. On la voit partout. Et puis donc elle va libérer les enfants et elle va partir de la France avec François et ses deux enfants. Bien sûr, à la fin, le narrateur explique que cela aurait pu être une fin, mais que ça ne s'est pas fini du tout comme ça pour les deux enfants dans la vraie vie. Parce qu'il y a toujours une petite, vers la fin, les 10 derniers épisodes, il y a le narrateur qui explique ce qui s'est passé pendant la Révolution française. Il y a également un petit passage sur les frères Montgolfier.
Je ne sais plus, les enfants, ils ont été tués ou ils n'ont pas disparu?
Alors, Marie-Thérèse, c'est la seule survivante, elle a été exilée... en Autriche, je crois. Enfin, il y a eu pas mal d'aventures avec elle, je ne pourrais pas dire exactement. S'il y a un professeur d'histoire qui m'écoute, en plus, je vais me faire taper sur les doigts. Et quant à Louis-Charles, il est mort à 10 ans de tuberculose, emprisonné. Enfin, ça a été... Pas du tout la même fin que le dessin animé, finalement. Oui, voilà. Oui. Le dessin animé finit plutôt mieux que ce qui s'est passé dans la vraie vie. Voilà en ce qui concerne donc La Tulipe Noire, que vous pouvez voir tous les épisodes sur YouTube. Ça va, c'est faisable, enfin c'est regardable, je veux dire, mais il y a juste un petit peu de lenteur au niveau de l'animation parfois.
Je ne sais plus si tu as parlé des mousquetaires, parce qu'il y a eu pas mal de dessins animés sur les mousquetaires. Ça me fait penser à ça, parce que c'était à peu près à la même époque, peut-être plus avant. Richelieu.
Oui, non, c'est pas c'est un peu trop avant. La même époque.
C'est l'autre, oui.
Lady Oscar se passe par contre à cette époque-là. Ouais. Voilà. Bah non. On va pas mettre de musique.
D'accord, on passe à ma série odorante.
On va passer à ta série odorante, tout à fait.
Et oui, parce que cette série s'appelle Le Parfum.
Comme le film. Non, ça n'a rien à voir.
Alors si, c'est en rapport avec le film.
D'accord.
En fait,
et le livre.
Et le livre, évidemment, puisque c'est effectivement un livre avant tout. Donc on va suivre 6 adolescents pensionnaires qui vont se lier d'amitié autour d'une passion commune pour le parfum. Et en fait, on va surtout être des années plus tard... où l'un d'entre eux va être violemment assassiné. Et là, de troublants secrets vont être mis à jour et la police va évidemment enquêter sur les membres de ce groupe pour comprendre pourquoi un des leurs a été tué et essayer d'en savoir plus. Donc c'est une série qui est sur Netflix, c'est une série allemande qui est de 6 épisodes, donc c'est rapide à regarder. C'est une série qui est plutôt bien jouée, alors même si je l'ai regardée en français, j'avoue, je ne l'ai pas regardée en allemand. Je ne comprends pas l'allemand. J'aurais pu avec les sous-titres, remarque, mais non. C'est bien filmé, il y a une ambiance très glauque, mais comme on a dans le film, Le Parfum, c'est assez glauque aussi. Et je n'ai pas lu le livre.
Moi, j'ai lu le livre. Et c'est un livre à lire, vraiment.
Oui, c'est ce qu'on m'a dit aussi.
Parce que tout le monde me disait, tu verras, c'est particulier. On ne me disait pas trop. Et c'est vrai, quand on lit le livre Le Parfum de Susskind, Patrick Susskind, on a l'impression de sentir les odeurs. Et ça, c'est assez formidable, d'ailleurs. C'est tellement bien décrit qu'on sent l'odeur de ce qu'il nous décrit. Et je crois que ça ne m'est jamais arrivé pour un autre livre. Donc, c'est un livre, un classique, quand même, et que je conseille.
Un classique, parce que moi, j'en avais souvent entendu parler. Je ne pensais pas du tout que c'était ça comme histoire. Je pensais que c'était une histoire romantique, en fait, alors que pas
du
tout.
Ça peut être romantique à sa façon.
Oui, si on veut. Et par contre, j'ai vu le film que j'ai beaucoup aimé. Et à Lyon, vous pouvez voir les décors au musée miniature et cinéma, où il y a les décors qui sont fantastiques.
Film qui a été réalisé par le fantastique Tom Tykwer. et film qui, d'après Kubrick, était irréalisable. Livre qui était irréalisable.
Alors que
en
là, enfin, moi, je trouve réussi. J'ai pas lu le livre. Mmh. Donc, je suis persuadée que les gens qui ont lu le livre doivent être déçus.
C'est oui et non, parce que je trouve que quand même c'était difficile à faire ça en film, surtout un livre qu'on a l'impression de sentir les odeurs, c'est compliqué de faire ça en film. Et je trouve que même s'il n'est pas il y a beaucoup de petits défauts, on va dire, mais c'est quand même un film honorable. Voilà. Et puis j'aime beaucoup le réalisateur, donc je vais pas en dire du mal.
Donc là, en fait, ça reprend l'idée du livre, puisqu'en fait, on est vraiment autour du parfum et le parfum a son importance. D'ailleurs, vous comprendrez que c'est vraiment toute l'importance de la série, c'est le parfum en général. Donc il y a une ambiance très sombre dedans, des personnages qui sont assez forts en personnalité, peut-être parfois trop, ça mène des fois un peu à la caricature, mais l'intrigue, enfin moi j'ai eu envie de voir chaque épisode parce que je voulais savoir comment ça se finissait. Évidemment, je me doutais qu'à chaque fois celui où on se dit ah c'est lui le meurtrier, je me doutais que c'était pas lui. Parce que c'est toujours comme ça. Par contre, si j'en ai un peu marre juste d'une chose, c'est je sais pas dans ce genre de série quand on suit une flic. Et dans ce genre d'enquête, on suit souvent donc le ou la flic. Ils sont toujours pas très bien, en fait. Ils sont pas bien dans leur tête, les flics. Ils sont tristes.
De voir des horreurs aussi.
Ils sont tristes, ils n'ont pas forcément de vie de famille. Ils ont besoin d'une bonne thérapie, tous, à chaque fois. C'est un peu... c'est peut-être le reproche aussi que je fais. Mais sinon, c'est une série qui se regarde plutôt bien. Dedans, il parle d'ailleurs du livre, Le Parfum, évidemment. Et voilà, j'étais curieuse parce que je ne savais pas du tout si ça avait effectivement un lien avec le livre et le film qui a été adapté. Et si, sauf que c'est une façon un peu originale de traiter ce sujet-là et de rappeler ce livre. Donc je vous conseille, c'est sur Netflix, ça s'appelle Le Parfum, donc c'est une série allemande et 6 épisodes, voilà. Ça ne vous prendra pas beaucoup de temps.
Et ça se passe de nos jours, on va dire.
Oui, c'est de nos jours.
Le parfum date...
Oui.
C'est pas le...
Mais non, non, ouais. c'est de nos jours. Et l'intrigue est plutôt pas trop mal fichue, même si c'est un peu, je pense pas...
Il y a quand même une fin.
Oui, il y a une fin. Okay. Oui, oui.
Très bien. Eh bien, notre émission touche à sa fin. Je vous rappelle que nous avons un blog, loadingradio.wordpress.com, que vous pouvez voir déjà dessus de tout ce qu'on a parlé aujourd'hui.
Ah, oui, oui, c'est en ligne. Et puis, n'hésitez pas à faire un tour aussi sur Facebook, sur Twitter, parce qu'on donne des infos aussi. Mmh.
Et nos podcasts se sont à jour.
Évidemment.
Évidemment. Vous pouvez nous écouter, réécouter en podcast, il n'y a pas de problème. Eh bien, nous, on se retrouve la semaine prochaine, donc le jeudi en direct, en diffusion le samedi. D'ici là, passez une très bonne semaine, jouez bien, lisez bien, regardez bien des séries, des films.
Si vous ennuyez, il y a le cinéma, là, il y a plein de films.
Ah oui, là, en ce moment, c'est fleuri. Allez, à la semaine prochaine, ciao, ciao.
Ciao.